Gloire à Dieu.
Ce matin, on va parler vision. On va parler vision parce que parler vision, c'est toujours important. On va voir dans l'écriture différents types de personnes.
Donc
certains avaient des visions, d'autres n'avaient pas de vision. Et vous savez, c'est important, on connaît bien cette parole, on va quand même la relire, Proverbe 29:18. Mais c'est pas là-dessus que je vais m'attarder. C'est ma référence, si vous voulez, mais c'est pas sur en commentant ce verset. On va passer beaucoup de temps, mais on va surtout passer du temps à voir ce qu'est une vision. Proverbe 29:18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. 29:18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Le peuple va nulle part ou va n'importe où, si vous
voulez.
Parce qu'aller nulle part, c'est aussi aller n'importe où.
Il
y a d'autres traductions qui disent le peuple est sans frein. Et quand vous n'avez pas de frein, en général, vous avez des problèmes. Si vous roulez avec une voiture et que vous roulez à une certaine vitesse et que d'un seul coup il y a un obstacle devant vous, vous appuyez sur la pédale, les freins sont foutus, et bien où est-ce que vous allez? Dans l'obstacle, et vous vous écrasez lamentablement. Donc c'est important de comprendre que sans vision, nous allons nulle part ou nous allons avoir des accidents partout, c'est-à-dire des accidents de parcours. Et qu'il est important donc de saisir une vision. De comprendre que si un homme n'a pas de vision pour sa propre vie, il va nulle part. Et aller nulle part, c'est très mauvais dans la vie spirituelle. Aller nulle part dans sa vie, c'est extrêmement mauvais. Et malheureusement, on s'aperçoit que beaucoup de chrétiens vont nulle part. Ils tournent en rond. Leur vie est devenue un cercle monotone, ennuyant, et ils ne réalisent strictement aucun objectif dans leur vie. Un homme a besoin d'une vision. Il a besoin d'alimenter sa vie par une vision. Si un homme n'a pas de vision, il dépérit, il s'endort, il laisse le temps précieux que Dieu lui a donné sur la terre finalement passer, s'écouler en ne réalisant strictement rien. Dieu nous appelle à avoir une vision. On va regarder différents types de personnes dans l'écriture, comme je vous le disais. Certains qui ont eu des visions, et on dira comment avoir une vision, bien sûr. Quels sont les principes scripturaires qui nous montrent à propos de la vision, de ce que c'est que saisir la vision de Dieu? Dans Nombre chapitre 13, on va voir un groupe de gens dont certains avaient une vision et dont d'autres n'ont eu aucune vision. Et on va voir où est-ce qu'ils ont été, ces gens-là. Quelle a été leur finalité. Puis on étudiera aussi la vie de Néhémie. On verra que Néhémie est devenu un leader parce qu'il avait une vision. Puis nous irons faire un petit tour dans la vie de Joseph. Et on verra le fruit de gens qui reçoivent des visions. Et quand je parle de recevoir des visions, je ne parle pas forcément de voir dans le monde spirituel. Mais au contraire, d'avoir un certain objectif que l'on veut réaliser à court terme, ou et à moyen terme, ou et à long terme. Et nous verrons aussi dans la vie d'Abraham ce que Dieu lui a dit. Mais regardons d'abord donc dans Nombre chapitre 13. Les Israélites étaient dans le désert. Ils avaient fait le plus gros. Numéro 1, ils avaient été délivrés de l'armée la plus puissante du monde de l'époque, les Égyptiens. Ils étaient esclaves des Égyptiens. Dieu suscite un leader, Moïse, qui les fait sortir miraculeusement. Un instrument choisi par Dieu pour qu'ils sortent de l'Égypte, de l'esclavage. Rappelez-vous que ça c'est l'image, l'Égypte est l'image du monde, de l'esclavage de Satan, du royaume des ténèbres. Nous sortons, nous passons par la mer rouge, la nouvelle naissance, c'est le symbole. Et nous allons vers le pays promis. Et là aussi c'est important à comprendre. Dieu ne t'a pas fait sortir de ton péché pour que tu ailles errer dans le désert sans vision. Mais Dieu veut infuser en toi une vision pour que tu puisses réussir ta vie et qu'à la fin de la vie tu fasses un bilan positif parce que le Seigneur aura réalisé au travers de toi. Et pour cela tu dois saisir la vision. D'abord tu dois comprendre que Dieu ne te veut pas en train de tourner en rond, de piétiner dans ta vie. Mais Dieu veut que tu saisisses sa vision, la vision du royaume, et que tu sois brûlant de zèle pour réaliser ce que Dieu a pour toi, les plans divins qu'il a pour toi. Et il va y avoir des ingrédients qui sont indispensables. On va juste effleurer cette partie-là ce matin parce que je n'aurai pas le temps de tout faire. Donc, il traverse le désert. Dieu fait miracle sur miracle. Il fait vraiment des choses superbes. Il les nourrit surnaturellement. Il est béni surnaturellement. La Bible nous dit que leurs vêtements, leurs chaussures n'étaient même pas usés. La Bible nous dit combien Dieu les a protégés.
Et
ils arrivent aux portes de ce pourquoi ils étaient sortis. Dieu ne t'a pas fait sortir du monde, du péché, pour que tu erres sans vision. Dieu t'a fait sortir du péché, pour que tu ailles dans le pays promis, pour que tu ailles dans l'abondance, pour que tu puisses voir son royaume s'établir dans ta vie, se manifester dans ta vie. C'est ce pourquoi Dieu t'a sorti. Et si tu n'y es pas encore, si tu n'as pas encore goûté ce pays, si tu n'as pas encore goûté la bonne bénédiction de Dieu, il va falloir que tu saches pourquoi. Et bien souvent, c'est parce que le peuple n'a pas de vision. Le peuple n'est pas capable de voir quelque chose. Ils sont au bord de leur bénédiction. Ils sont juste à côté du pays promis. Ils ont passé des mois dans le désert où ils étaient restreints, où ils n'avaient pas de maison, où ils ne pouvaient rien planter, où ils ne pouvaient pas élever leurs animaux correctement. Pour l'instant, ils étaient en train de consommer ce qu'ils avaient. Et Dieu les amène juste aux portes. Après tout un tas de miracles dont ils ont été témoins avec leurs yeux. L'appel de Moïse, c'était de faire sortir le peuple et de l'amener dans le pays que Dieu avait juré à Abraham de donner à sa descendance. Moïse était l'instrument qui allait faire le pont reliant entre l'Égypte et l'esclavage vers la promesse accomplie pour Abraham. Ce que Dieu avait dit à Abraham des siècles plus tôt, presque 500 ans plus tôt, Dieu allait l'accomplir là. Ils étaient aux portes. Et Dieu va envoyer des espions. 12 espions. Nous connaissons cette histoire, je vais y passer brièvement. Il est dit verset 1 jusqu'au verset 3 de Nombre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu, de leur père. Chacun d'eux sera un prince. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs d'Israël. Donc Dieu dit: envoyez des leaders. Envoyez des leaders, les chefs, les chefs de chaque tribu. 12 tribus, vous envoyez 12 personnes. 12 Abashin Nanaye, gens responsables, des sages, pour qu'ils aillent quoi faire, explorer le pays que je donne à ce peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir explorer le pays. Verset 18, il est dit: vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, campement ou forteresse, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il s'y trouve des arbres ou s'il n'y en a point, fortifiez-vous, prenez les fruits du pays. Et les espions vont partir et ils vont revenir au bout de 40 jours. Verset 27. Voici ce que racontèrent Moïse: nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. c'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et nous avons vu même des enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Les Amalécites habitent le pays du Négev, dans le désert. Les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore les habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là des géants, les fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit. On peut lire quelques versets au verset 30.
Sobe kuri mirongo itatu. Maze Kalebu yamira abantu ariko baridodomba Mose. Niguko twanyuranyuremwo tugirira n'igihugu n'igihugu kimeragirwa abantu babo kandi abantu bose twahabonye nabagabo barebare cyane kandi twabonye uko ari bigatanya ari bo banaki bakomose kubigatanya nyene ku ruhande rwacu twabonye ko tubaboneka ko nk'inzige nabo kandi babonekwa ko ariko tumeze.
Et alors au chapitre 14, le peuple va se soulever. Ils vont pleurnicher. Ils vont dire, il faut qu'on se nomme un leader. Et qu'on retourne. Et qu'on retourne. Ces gens-là n'avaient qu'une vision de retourner en arrière. La seule vision que ces gens-là avaient. La seule vision que ces gens-là avaient. Alors qu'ils étaient aux portes. Ils étaient aux portes de leur bénédiction. Vraiment, ils étaient juste à côté. Dieu leur dit, envoyez ces espions. Les espions vont. Ils reviennent. Il y en a 10 qui font un mauvais rapport. 10 qui n'ont aucune vision. 2 qui font un bon rapport. Parce qu'ils ont une vision. Si vous lisez ce texte, on n'a pas le temps d'aller en détail. Mais les 2 avaient une vision. Les 2 étaient dans la foi. Avec une vision. C'est vrai qu'il y a des géants. C'est vrai qu'il y a de l'adversité. Mais Dieu a dit que c'était pour nous. Dieu a dit que c'était pour nous. Sous-entendu, on n'est pas arrivé là. Pour aller faire demi-tour. Il fallait être fou. Vouloir retraverser le désert. Vouloir retraverser le désert. Avec toutes les galères qu'ils ont subies. Avec toutes les oppositions qu'ils ont eues. Et comment ils auraient fait pour retraverser la mer Rouge? Vous savez, quand les gens n'ont pas de vision, ils sont stupides. C'est vrai. Souvent, les gens qui n'ont pas de vision, ils vous disent des trucs quand il y a de l'adversité, où ils amplifient les phénomènes. Ils amplifient les problèmes. Ils se voient morts. Ils se voient finis. Ils se voient sans espoir. Et ça, c'est le jeu du diable. Ça, c'est le jeu du diable. Les 2 qui avaient une vision, ils ont très bien terminé. Josué avait la vision d'entrer dans le pays. Mais si vous lisez bien le texte, vous verrez que c'est Caleb qui a bien réagi. Caleb a bien réagi. C'est le premier qui a pris la parole. Et Caleb a rassuré le peuple. Josué s'est tout de suite rejoint à lui. Et Caleb, quand vous suivez son histoire, vous savez, Caleb, c'est pas un joli nom qu'il a. Vous savez ce que ça veut dire, Caleb? Ça veut dire chien. C'est vrai. Mais cet homme, il n'a pas regardé son nom. Vous voyez, parfois, on a des noms qui peuvent déplaire. Mais sachez une chose. Quel que soit notre nom, l'important, c'est que nous ayons une vision.
Amen.
Parce que nous avons un nom nouveau dans le ciel.
Amen.
Et c'est ça qui est important.
Caleb,
il s'est levé.
Et
il a dit,
non,
faut qu'on y aille.
Dieu est avec nous.
Si Dieu est avec nous, c'est très simple.
On va vaincre.
De toute façon, on n'a pas de choix. C'était un homme avec une vision.
Un
homme de foi. Et si vous lisez la suite des Écritures, vous verrez que quand ils ont partagé le pays, on n'a jamais oublié Caleb et sa famille. Ils ont eu une bonne partie du pays. Cette famille a marqué son temps. Pourtant, Caleb n'est jamais devenu un grand leader. C'est Josué qui a été choisi. Mais ces deux personnages, ils se sont créés un avenir parce qu'ils avaient une vision. Sache une chose, tu ne pourras jamais te créer un avenir si tu n'as aucune vision dans ta vie. La vision te permet de te créer un avenir.
Tu
te permet d'ouvrir un espace devant toi. Des gens qui n'ont pas de vision, ils ont un mur devant eux. C'est ce que ces Israélites avaient. Ils avaient un mur devant eux. Et Dieu les a punis. Ceux qui n'avaient aucune vision, ils sont morts sur le champ. Pour ceux qui ont tenté plus de 10 fois Dieu. Dieu a dit, ceux qui m'ont tenté plus de 10 fois. Aujourd'hui, les autres, vous allez passer 40 ans dans le
désert.
Après avoir souffert tout ça, osez se rebeller contre des leaders, contre Moïse, contre Josué et
Caleb.
Parce que si Dieu n'était pas intervenu, Moïse, Josué et Caleb, ils auraient été lapidés par le peuple. Mais Dieu, heureusement, s'est montré. Et ce peuple qui a été rebelle. Et vous savez, toute l'Écriture en parle de ça. Lisez l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, que je crois
être Paul,
eh bien, je peux vous dire une chose, il n'est pas tendre avec les Israélites. Manque de foi, manque de vision. Manque de foi, manque de vision. Ces gens-là n'avaient aucune vision. Ils n'ont rien construit dans leur vie. Est-ce que c'était de leur faute si Dieu était intervenu pour qu'ils sortent du pays d'Égypte? Non, ils étaient pour rien. Dieu a suscité Moïse, c'était grâce à eux. Non, c'était grâce à l'amour et la compassion de Dieu. Et c'était grâce aux promesses d'Abraham. Un homme qui a marché selon le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les prend, les fait sortir surnaturellement de la main des Égyptiens. Aucun pays, aucune nation au monde n'a vécu une telle chose dans l'histoire de l'humanité. Vous pouvez prendre toute l'histoire de l'humanité. Vous ne verrez aucune nation, aucun peuple qui a été comme le peuple juif, sorti surnaturellement, miraculeusement, par des interventions au pluriel, miraculeuses de Dieu, et qui a amené un peuple à sortir de l'esclavage d'un autre peuple. De cette façon-là, vous n'en verrez jamais cela dans l'histoire de l'humanité. Ces gens-là ont vécu quelque chose de spécial. Ils étaient vraiment les favoris de Dieu. Les choisis de Dieu, la race élue de Dieu. Et Dieu leur avait donné une vision. Je vais vous amener dans le pays promis. C'était la vision qu'ils avaient ou qu'ils auraient dû avoir. Malheureusement, quelques personnes ont saisi cette vision et les autres ne l'ont pas saisi. Et Dieu les a punis, les a corrigés. Il leur a dit, c'est comme ça, toute cette génération, elle passera. Sauf Josué et Caleb. Ils iront dans le pays promis. Pourquoi?
parce qu'ils avaient une vision. Vous voyez où la vision peut nous amener. Mais vous voyez aussi où le manque de vision peut nous amener. Le manque de vision te laissera dans le désert. Le manque de vision te laissera à vivre avec tes circonstances. Le manque de vision ne pourra pas exploiter tes dons. Ne pourra pas exploiter ce que tu as mis et qui veut le faire sortir. Un homme doit vivre en étant alimenté dans sa vie avec des visions, avec des choses qu'il voit à l'avance. Avoir une vision, c'est voir des choses à l'avance, avoir des objectifs, des objectifs divins, des objectifs pour amener quelque chose dans l'histoire de l'humanité, des objectifs pour amener un changement dans la vie des autres, dans la société où nous sommes, mais avec Dieu. Des gens se sont levés dans l'histoire de cette humanité qui ont fait certaines bonnes choses, mais ils ne les ont pas faites pour le Seigneur. Ils ne les ont pas faites pour le Seigneur. Un homme voulait que chacun puisse être éclairé correctement. Il s'est appelé Thomas Edison. Et cet homme, sa vision, c'était de pouvoir, avec l'électricité, créer ce que nous voyons ici, c'est-à-dire de la lumière. Et il savait que c'était possible. Cet homme avait une vision. Il y a travaillé pendant je ne sais combien de temps. Il a essayé plus de 1000 fois, nous dit-il. Et il a réussi. Mais ça, c'était pas pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont fait de bonnes choses sur cette terre, mais qui ne les ont pas faites pour Dieu. C'est-à-dire qui ont travaillé pour ce qui est périssable. Nous, nous avons la grâce, le privilège de pouvoir travailler pour un royaume qui n'est pas périssable, le royaume de Dieu, frères et sœurs. Et il est temps que le peuple de Dieu se réveille, qu'il désire avoir une vision, de réaliser des choses, alimenter une vision, avoir une vision. Ces gens-là n'avaient pas de vision. Ils sont morts dans le désert sans voir leurs promesses se réaliser. Josué et Caleb avaient une vision et ils ont vu leur promesse se réaliser. C'est vrai qu'ils ont subi aussi des conséquences de la désobéissance. Parfois les visionnaires le font, le subissent. Hein. Mais ça, c'est un autre sujet. Un autre homme avait une vision un jour. C'était Néhémie. On va parler de Néhémie ce matin. Alors, comme je sais que vous lisez rarement le livre de Néhémie, vous allez le trouver avant les psaumes. Avant, vous avez Job. Et avant cela, vous avez Esther. Et juste avant, vous avez encore Néhémie. Alors, qui était Néhémie? Néhémie, c'était un homme qui était parmi les captifs. Dans l'histoire d'Israël, environ au 6e siècle avant Jésus, Israël ayant tellement désobéi, vous lirez ça vers la fin du livre des rois, entre autres, et deux chroniques aussi, et c'est l'histoire de la fin des rois d'Israël. Israël avait tellement désobéi avec les idoles, les faux dieux, les adorations de démons. Dieu avait dit dans sa loi que si le pays se remplissait d'idoles, Dieu allait châtier le peuple et les ennemis pourraient prévaloir sur leur pays. Ils auraient la prééminence. Ils pourraient conquérir leur pays. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a envoyé des prophètes sur prophètes sur prophètes. Ils n'ont jamais voulu écouter. Ils se sont initiés à des faux prophètes. Les derniers rois étaient vraiment extrêmement pervertis. Et il y a un roi, Nabucodonosor, qui est venu et qui a détruit Jérusalem. Et qui a détruit aussi les murailles de Jérusalem. Et que ce soit Esdras ou Néhémie, c'était des reconstructeurs. Néhémie va reconstruire les murailles de Jérusalem. Esdras va restaurer le temple de Jérusalem. Donc pendant 120 ans,
Eh bien, les murailles étaient détruites.
Ils ont dit, les
portes de la ville avaient été brûlées. Et il y avait des brèches un peu partout. C'était la honte d'Israël. Israël qui avait une histoire fabuleuse. Extraordinaire. Une histoire où Dieu était intervenu puissamment. En leur faveur. Le pays intouchable. Le pays indestructible. Parce que Dieu était avec eux. Avec une alliance. Alors désobéissance. Ils ont brisé cette alliance. Et Dieu a dû intervenir. Pour qu'Israël soit puni. Et c'était une humiliation pour les Israélites. Donc ce roi Nebuchadnezzar, pour raconter l'histoire, il a déporté les Juifs trois fois vers Babylone. Et à cette époque, enfin Babylone, c'est pas très loin de Bagdad aujourd'hui. Et en fait, ce roi Nebuchadnezzar donc avait déporté une partie des Israélites. Et il avait mélangé les peuplades. C'était sa méthode. Ce qu'il faisait, c'est qu'en général, quand les Babyloniens conquéraient des territoires, leur méthode pour garder la mainmise sur les territoires conquis, c'était de mélanger les populations. Donc, il y avait des gens qui n'étaient pas des Israélites qui étaient venus habiter sous l'ordre de Nebuchadnezzar dans le territoire d'Israël. Et cet homme Néhémie, il avait un fardeau pour son
peuple.
Vous voyez, Dieu avait suscité plusieurs personnes pour justement, entre autres, le prophète Daniel. Vous connaissez l'histoire du prophète Daniel. Là, c'était plus du côté spirituel où ça s'est passé. Mais il a aussi suscité des hommes qui ont fait des choses pour pouvoir redonner une certaine gloire à la ville de Jérusalem et à Israël. Sachant qu'il y avait eu des prophéties où le peuple serait emmené captif
70 ans.
Et Néhémie, il va envoyer quelqu'un pour que la personne puisse lui donner des renseignements sur la condition des murailles de Jérusalem. Et il va entendre le rapport qui lui est fait par cette personne. Et vraiment, ça va mettre un fardeau dans son cœur. Et ça va déclencher une vision. Ça va déclencher une vision.
Vous
voyez, une vision se déclenche de façon différente. La première façon dont tu peux déclencher une vision dans ta vie, et là c'est toi qui la déclenches, c'est quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu t'aperçois qu'il y a des choses que tu vis qui sont complètement contraires à la parole de Dieu et qui te font souffrir atrocement, et tu te dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça peut être par exemple la maladie, ça peut être la pauvreté qui t'a frappé, ça peut être différentes choses dans ta vie qui sont vraiment des choses qui te font mal et dont tu es le seul à dépendre. C'est-à-dire, tu peux changer cette situation et c'est à toi de le faire. Tu entends la parole de Dieu et d'un seul coup tu te dis, mes grands-parents ont vécu ça, mes parents ont vécu ça aussi. Moi, je refuse ça. Je veux que cette malédiction de cet héritage derrière moi soit changée en bénédiction. Et c'est là où tu commences à avoir une vision de voir changer les choses. Par exemple, tu peux être d'une famille de soulards. Tu te convertis, toi. Et tu dis vraiment, moi, je veux que ma famille vive dans la sainteté. Parce qu'elle est au Seigneur. Tu as une vision, quelque part. Une vision de sortir de la pauvreté. Une vision de sortir de certaines maladies peut-être héréditaires. Une vision de sortir d'un boulot qui vraiment te déplaît et tu veux faire quelque chose. Une vision parce que tu vois quelque chose de particulier dans ta vie qui n'est pas selon les Écritures. Et là, tu vas accomplir quelque chose. Tu veux que ça change. Et là, tu saisis une vision. Les autres visions, c'est Dieu qui les met dans nos cœurs. C'est Dieu qui met quelque chose dans nos cœurs. Ça, tu ne peux pas le provoquer toi-même. Et là, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens qui voient des besoins. Par exemple, On peut dire, voilà, il y a des enfants de la rue. Les enfants de la rue ont besoin. Donc quelqu'un peut dire, moi je décide d'aider les enfants de la rue. J'ai une vision d'avoir une maison. Je vais prier. Je vais les encadrer. Je vais leur donner à manger. Je vais leur donner l'éducation. Ça peut être une très bonne vision. Est-ce que c'est ça que le Seigneur te demande? Peut-être. Peut-être pas. Et tu as d'abord intérêt à être sûr que Dieu est en train de te donner une vision pour quelque chose. Parce que beaucoup de gens se plantent là. Beaucoup de gens font des erreurs. Une vision ne vient pas en voyant un besoin. Une vision, ça vient alors que tu es en train de voir une situation et que d'un seul coup le Seigneur parle à ton cœur. Il parle à ton cœur. Là,
Néhémie,
le Seigneur a parlé à son cœur, c'est clair. La main de Dieu était sur lui, ça nous a dit à plusieurs reprises. La main de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Elle était sur cet homme, cette
onction.
Et c'est pour ça qu'il va réaliser des choses extraordinaires. D'un seul coup, il est touché par cette nouvelle. David était touché un jour quand il a entendu l'histoire de Goliath et que c'était encore un petit gamin. Parce que Dieu lui avait donné la vision d'être le leader d'Israël. Samson était touché. Quand il a vu les ennemis d'Israël. D'un seul coup, saisi par la puissance de Dieu. C'est ce qui se passe quand on est visionnaire. Quand Dieu infuse une vision en toi, il y a quelque chose qui se passe. Tu entends un événement, tu vois quelque chose, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui descend dans ton cœur. Dans ton esprit. Et le Seigneur te parle. Et il te montre quelle est ta destinée. Donc le premier type de vision qu'on peut avoir dans nos vies, c'est sortir de situation alors que nous sommes confrontés à la vérité de l'Écriture. Ça, c'est la première des visions que tu peux avoir dans ta vie. Déclarer la guerre à ce qui n'est pas scripturaire dans ta vie. Au jour que le diable a pu mettre, soit par un héritage passé, soit parce que tu as mal démarré au travers de ton éducation, parce que tu n'as peut-être pas eu la bonne éducation, que tu as des complexes, que tu as tout un tas de problèmes personnels, et tu veux t'en sortir, et tu prends la parole de Dieu. Et ça, cette vision, tu n'as pas besoin que Dieu te parle directement, parce que Dieu te parle au travers de sa parole. Et tu choisis que ça change. L'autre type de vision, c'est là où Dieu, justement, commence à te mettre un fardeau dans ton cœur. Tu sens cela, tu sais cela. Et ça vient du Seigneur. Néhémie était comme ça. Néhémie va recevoir la vision de reconstruire les murailles de Jérusalem. Il vit à des milliers de kilomètres de Jérusalem. Il n'a pas été lui-même voir les murailles. Mais quand il entend, pouf, il se passe quelque chose dans son cœur, dans son esprit. Et il commence à avoir une vision de vouloir reconstruire les murailles. Et quand vous lisez l'histoire de cet homme, cet homme va amener la vision qu'il a reçue à sa réalisation. Cet homme, il va avoir la vision de reconstruire et il va naviguer comme un pilote de navire veut arriver à un objectif. Là, il y aurait bien des choses à dire là-dessus. Quand tu reçois une vision du Seigneur, il faut que tu saches une chose. Il faut que tu saches naviguer. Vous savez, comme quelqu'un l'a dit, n'importe qui peut tenir la barre d'un bateau. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, mon père, c'était un passionné de bateau à voile. Et alors, j'étais fier parce qu'un jour, il m'a permis de tenir la barre. Bien sûr, il avait ses mains tout proches parce qu'on pouvait faire des gaffes. J'étais fier ce jour-là. C'était dur, juste un morceau de bois, vous savez qu'il fallait. À droite, à gauche, très légèrement. Ça, n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. Par contre, amener je dirais, au bon but. Amener le bateau au bon endroit. En ayant tracé toute la route. Pour arriver à l'objectif. Là, n'importe quel gamin ne peut pas le faire. Parce qu'on ne sait pas lire une carte. Parce qu'on ne connaît pas les vents. Parce qu'on ne sait pas comment le bateau marche réellement. Seul le pilote est capable de faire ça. Le capitaine du bateau est capable de faire ça. Mais sache une chose. Avoir une vision t'imposera de devenir un leader sur ta propre vie. Ça t'imposera de prendre des décisions. Ça t'imposera de prendre des directions. Et vous savez, si vous voulez aller d'ici à Gitega, eh bien, il va falloir que vous empruntiez un certain nombre de routes. Même si les routes macadamisées du Burundi ne sont pas très compliquées, il n'y en a pas énormément. Au moins, quand vous arrivez à Bugarama, il ne faut pas continuer direct vers le Rwanda. Il faudra tourner à droite pour aller vers Gitega. Et ça, il faut quand même le savoir. Il faut emprunter les bonnes routes. Et un leader, sur sa propre vie, parce que si tu as une vision que le Seigneur te donne, il va falloir que tu apprennes à naviguer. Et ça, c'est très important. Tu dois avoir une vision. D'abord dans ta propre vie à propos de la parole de Dieu. Ensuite, tu demandes à Dieu, quelle est ma destinée, Seigneur? Certains d'entre vous, vous avez une petite vision, mais au moins réussissez-la. Vous êtes leader d'un groupe de maisons dans cette église. Et je vais vous dire une chose. Vous avez intérêt à savoir naviguer pour amener votre groupe au succès. D'autres, vous faites des choses dans cette église. Et on vous a délégué un petit morceau de leadership. Vous avez aussi intérêt à amener les choses à se passer. Un leader qui a une vision, il ne doit pas s'asseoir dans un coin et dire, Seigneur, faut que ça se passe.
Ah,
alléluia. Merci parce que tu amènes les choses à se passer. Si c'est toi qui diriges, et tu as ta vie à diriger, il
va
falloir que tu amènes les choses à se passer dans ta vie. Et c'est important. Quand on voit Néhémie, c'est un homme dans sa réussite. D'abord, il a été capable d'identifier les réels problèmes. Quand vous avez une vision, c'est parce que vous voulez réaliser des choses qui ne sont pas encore réalisées. Donc, vous allez avoir un certain nombre de problèmes à résoudre et il faut savoir identifier les problèmes et les besoins. C'est un homme aussi, vous remarquerez, qui va passer du temps avec Dieu. Là aussi, c'est là où beaucoup dérapent. Discerner les temps, les moments, les étapes dans lesquelles Dieu veut t'amener. Quand tu veux réaliser quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur, Dieu a besoin de toi pour réaliser. Il te donne, il te met dans ton cœur une vision, mais il a besoin de toi, tu es l'instrument par lequel il passe. Il ne passera pas par quelqu'un d'autre parce que tu l'as choisi pour ça. Ensuite, il va falloir faire un certain nombre de choses avec un entourage, parce que souvent tu ne réaliseras pas ta vision tout ça. Vous voyez, les Israélites, ils avaient un leader, c'était Moïse. Moïse les a amenés jusqu'au pays promis. À la frontière du pays promis. Moïse avait une vision, c'était un visionnaire.
Moïse.
C'est vrai qu'il a fait une erreur qui lui a coûté cher. Plus le leadership est grand, plus les erreurs coûtent cher.
Donc, sache
une chose, plus ta vision est grande, plus ça te coûtera cher quand tu feras une erreur. Moïse, fait de frapper sur le rocher lui a coûté de ne pas voir devant ses yeux le pays promis. Dans Deutéronome 30, Dieu lui a dit, tu vas mourir, Moïse. Monte sur cette montagne. Et regarde. Ça, c'était ce que j'avais
pour toi.
Mais parce que tu m'as désobéi. Une faute. Il n'a pas pu voir le pays promis. Que cela nous serve de leçon, frères et sœurs. Donc, ce leader, il va devoir naviguer.
Il
va devoir prendre toutes les routes qu'il lui faut pour arriver à l'objectif. Et Néhémie va passer étape après étape. On va faire une étude là-dessus. Mais il va rencontrer des personnes influentes. Il aura le passage libre parce qu'il était normalement un des captifs. Il va partir de là où il était captif. Il va demander de l'aide de la part du roi. Et Dieu, le roi va l'aider. Un roi qui était païen. Il va l'aider. Surnaturellement. Il va avoir de la faveur. Il va arriver. Il va se rendre compte des problèmes réels. Et là, il va commencer à reconstruire. Cet homme avait une vision. Reconstruire. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit, ça le travaillait. Il fallait reconstruire. Il va trouver des gens du peuple. Il va réussir à les motiver. Et là aussi, quand vous êtes leader, vous devez motiver. Vous êtes leader de groupe de maison, vous devez motiver les gens. Les motiver, les enflammer. Mais si vous êtes congélateur, vous n'amènerez que des petits glaçons à se faire dans votre congélateur. Par contre, si vous êtes bouillant, vous allez enflammer les autres. Donc c'est là votre choix. Et Néhémie va pouvoir rassembler des gens. Il va se retrouver avec des problèmes. Les gens vont se plaindre. Il va y avoir les ennemis qui vont être là aussi. Des gens qui ont planifié des choses contre lui. Deux types particulièrement qui vont lui faire du mal et qui vont essayer absolument de l'empêcher quand ils vont voir qu'il commence à avoir du succès. Que Néhémie commence vraiment à avancer. Au début, on se moque de lui. Et tu blagues, toi, tu vas reconstruire une muraille. Tu as vu le travail que ça présente. Mais cet homme avait une vision. Cet homme, quand vous regardez sa vie, c'est vraiment intéressant. Il va réussir à reconstruire les murailles de Jérusalem en 52 jours.
De
façon étonnante. Il y avait des brèches. Et pendant une période, ils étaient tellement menacés qu'ils étaient obligés d'avoir des armes dans la main et avoir de quoi aussi construire dans l'autre main. Ils étaient obligés même de veiller pendant toute la nuit contre les ennemis. Et Néhémie lui-même a dû renoncer à certaines choses. Dans une vision, il y a un prix à payer. Les gens veulent le succès, mais ils
ne
veulent pas payer le prix. Sache une chose, quoi que tu fasses dans la vie, tu auras un prix à payer. Si tu veux réaliser quelque chose, si tu veux être dans une vision, être dans une vision de l'Église, tu auras un prix à payer aussi. Quelle que soit la vision que tu as personnellement ou que tu as au travers de l'Église, sache une chose, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et les gens souvent ne veulent pas payer le prix. Mais dans chaque vision qui se réalise, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a calculé la dépense, comme nous dit la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a calculé la dépense et qui a regardé le prix à payer. Et au début, c'est vrai, on ne fait pas attention au prix qu'il y a à payer. On va regarder ça dans Luc 14. Il y a une parabole. Je peux vous dire une chose, quand quelqu'un est prêt à payer le prix pour une vision, il verra la rétribution, la bénédiction. Luc chapitre 14, verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et disent « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas été capable d'achever. »
Uwutikore umusaraba wiwe ngo ankurikire ntazoshora kuba umwigisho wanje. Ninde muri mwebwe agomba kubaka umunara muremure w'amatafari ntiyobanza kwicara agaharura igitsigiri cy'amahera yokoreshwa ngo amenye yuko afise ayo munosorora ngo kumbure yoba ahejeje kubaka amatafari y'intanguriro ntashobore kuwuzuza ababibonye bose bagatangara bakamutwenga.
Donc qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Tu veux construire une tour? Tu as une vision. Vous savez, un constructeur, il a une vision. Quelqu'un qui veut construire, il a une vision. C'est quoi sa vision? C'est de voir le bâtiment être réalisé. Il se voit avec tout ce qui est fini. Quelqu'un qui décide de construire, il réfléchit, il médite, il se dit, tiens, je vais mettre combien de chambres, mettre le balcon, il regarde combien il a, ses disponibilités financières, il essaye d'avoir le maximum pour essayer de faire quelque chose le plus beau possible. Il réfléchit, il médite, il dit, je vais mettre des briques ici, je vais mettre de la pierre ici, je vais mettre du carrelage là, je vais mettre tel type de sanitaire, d'abord je vais acheter telle parcelle, non, puis finalement j'achète plus grand, je vais faire construire des murs autour, je vais avoir tel portail.
Donc,
il réfléchit, il pense, il médite, il essaye de faire du mieux qu'il peut. Il sait qu'il a tant d'argent et il a déjà compté la dépense. Tu comptes d'abord la dépense. Tu ne vas pas dire, oh, je vais faire une maison de 300 mètres carrés sur un terrain d'un hectare. Et puis finalement, tu as un million dans la poche. Non, si tu as un million dans la poche, tu peux pas construire une grande maison. Ou alors tu attends d'avoir plus. Mais il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas qu'avoir une vision, c'est un prix. Il y a un prix à payer. Néhémie, il a payé le prix de la moquerie, de la persécution, aussi d'être restreint pendant un temps. Cet homme, apparemment, à la cour du roi, il vivait bien. Quand il était en Israël, il avait le droit, si vous lisez le texte, à un salaire auquel il a renoncé. Il a renoncé à beaucoup de choses, Néhémie. Mais quand vous lisez la fin de son histoire, une fois qu'il avait terminé, je vais vous dire une chose. Quand vous avez une vision, vous avez beaucoup d'amis une fois que c'est achevé. Quand vous avez bien construit votre maison, il y en a beaucoup qui aimeraient boire des Fanta là-bas. Il y en a beaucoup qui viennent. Qu'est-ce que ta maison est belle! C'est formidable ce que tu as fait! Mais ils n'étaient pas là. Le jour où tu as dû mettre de l'argent, tu avais des problèmes avec les pour trouver les matériaux, tu avais des histoires parce que tu as le soudeur qui t'a piqué, je ne sais quoi. Il y a des gens qui t'ont fait des histoires pour tel ou tel truc, que tu t'es fait voler telle ou telle chose. Et pendant une période, tu t'es dit, je vais avoir du mal à terminer. Et que tous les jours, tu devais y aller. Jusqu'à temps que ce soit terminé. Les gens n'étaient pas là ce jour-là. Tout le labeur que tu as mis, toutes les difficultés que tu as rencontrées, les gens n'étaient pas là pour ça. Par contre, une fois que la vision est là, ils disent, c'est bien. Wow, t'as de la chance, toi. Ça a l'air d'être facile pour toi. Mais ils ne savent pas le prix que vous avez payé. Quand tu as une vision, tu as un prix à payer. Quoi que tu fasses dans la vie, il y a un prix à payer. Par contre, sache une chose, si tu n'as pas de vision, tu resteras dans le désert. Néhémie avait une vision. En 52 jours, cet homme a réussi à reconstruire les murailles de Jérusalem. Et après, il a réuni le peuple. Parce que les gens ont vu en lui un leader. Et ils ont dit, cet homme, vraiment, il y a la main de Dieu sur lui. Il a réuni le peuple. Et il les a corrigés. Et il les a ramenés à la loi. Et il a fait du nettoyage jusqu'à chasser certaines personnes qui faisaient des choses mauvaises encore en Israël. Il a dit, vous faites encore de l'idolatrie. Il a frappé les gens qui faisaient de l'idolatrie en disant, c'est ça qui nous a amenés captifs, hein. Et vous osez encore pécher comme ces rois. Et cet homme avait de l'influence. Je vais vous dire une chose, si vous voulez avoir de l'influence dans cette vie, de la bonne influence pour Dieu, il faut faut que vous réalisiez des visions.
Il
y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup, mais qui ne réalisent rien.
Sache une chose,
si tu veux être respecté dans cette vie, réalise d'abord et parle après. Dis à ton voisin, réalise d'abord et parle après. Amen.
Amen.
Parce que beaucoup de gens parlent,
mais
ne réalisent rien. Quand on voit ce qu'ils construisent,
5 ans,
10 ans plus tard,
10,
ils n'ont rien réalisé. Et pourtant, ils parlaient beaucoup.
Oui,
le Seigneur m'a dit.
Oh,
le Seigneur m'a appelé.
Ah,
j'ai commencé à faire. Oui, mais maintenant, tu n'es plus rien. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas payé le prix. Et sache une chose, beaucoup de gens veulent de l'influence parce qu'ils ont un nom ou une position. Et c'est la façon la plus pervertie de voir le leadership. Le leadership n'est pas avoir un nom, une position, une signature. Le leadership, c'est amener les choses à se passer. Et malheureusement, et nous sommes dans une société qui est terrible avec ça. Cette société où nous sommes ici n'est pas basée sur ce que les gens ont accompli, mais elle est basée sur les positions. Et je vais vous dire une chose, il
n'y
a rien de pire. Il n'y a rien de pire dans
une
société. Et j'ai vu que dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de gens qui résonnent comme ça. Et c'est une perversion de ce que Dieu a voulu au travers du leadership. Le leadership, c'est réaliser les choses. C'est amener des visions à se produire. Parce que tu les as amenées à se produire. Le leadership n'est pas d'avoir un titre, d'avoir une position. Mais malheureusement, c'est ce que je vois beaucoup dans les choses qui sont initiées et sous lesquelles on signe à la place de Dieu. Et je suis désolé, c'est pas scripturaire. Ce qui est scripturaire, c'est de commencer à la base, avoir une vision de Dieu, rentrer dans cette vision, payer le prix pour cette vision, savoir naviguer dans cette vision, l'amener à la réalisation. Et alors tu pourras parler. Alors tu pourras aller à un autre stade. Mais ce que je vois souvent, c'est des gens qui vous parlent, que Dieu leur a dit qu'ils seront ceci, que Dieu leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent cela. Et ils en parlent des choses et des choses. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, ils n'ont quasiment rien accompli. Tu veux être quelqu'un dans le royaume? Eh bien, commence déjà à rentrer dans la vision de la parole. Ensuite, écoute ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Et commence à réaliser vision après vision. Et tu verras que Dieu va te donner de la promotion et de l'influence. Sans vision, le peuple meurt. Un homme qui a réussi sa vie, c'était Joseph. Joseph, dans Genèse 37. Un gamin. Vraiment un gamin qui va faire des gaffes. À 17 ans, Dieu lui met une vision dans son cœur d'être un grand leader. Et malheureusement, comme tous les gamins de 17 ans, on n'a aucune expérience à cet âge. On parle beaucoup et finalement on se casse la figure. Et c'est ce que Joseph a fait. Et Dieu s'est servi de ça pour former son caractère et pour faire de lui un grand leader. Qui aura été un instrument d'une promesse faite à Abraham. C'est-à-dire que le peuple serait réuni quelque part géographiquement. Et ce peuple allait souffrir, la descendance d'Abraham, s'il était resté en Canaan à cette époque-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Joseph reçoit la vision du Seigneur d'être un leader. Il a une vision d'être un leader. Il sait qu'il va diriger. Il sait qu'il va être au-dessus même de ses frères, de sa propre famille. Il reçoit cette vision. Malheureusement, nous savons qu'il manque de sagesse. Il raconte ça n'importe comment. Et il commence à
se gonfler comme un petit jeune, a beaucoup parlé, et c'est ce qui va lui amener la tribulation, et il se retrouve dans des moments difficiles. Mais cet homme avait une vision. Ce jeune homme, en 13 ans, à l'âge de 30 ans, en 13 ans, ce jeune homme est passé d'un homme extrêmement mûr,
hein,
parce qu'il s'est servi des circonstances, des mauvaises circonstances, des fausses accusations, des choses, des mauvais coups que les gens lui ont fait, des manipulations. Il s'en est servi parce qu'il avait un cœur pour Dieu et il avait la vision de Dieu dans son cœur. Cet homme a réussi. Il est devenu le deuxième du royaume d'Égypte. Il a évité la famine à toute sa famille, qui était l'héritière des promesses d'Abraham, parce qu'il avait une vision. Il a accepté cette vision. Il a reçu ça dans son cœur. Et cet homme a commencé à exercer son don dans des moments difficiles, dans des moments où il était captif, vendu comme esclave, ensuite accusé, mis en prison. Il n'est pas resté par terre en se disant ouais, ma grande vision, pourquoi est-ce qu'il m'arrive tout ça à moi? Cet homme avait une vision. Et il s'est corrigé. Et là aussi, je tiens à le dire. Beaucoup de gens qui ont des visions ne se corrigent pas quand ils font des erreurs. Chaque leader que vous étudiez dans la parole de Dieu a fait des erreurs. Et celui qui avait une vision qui venait de Dieu et qui s'est corrigé, il a réussi. Malheureusement, souvent, nous avons ce problème-là. Quelqu'un a une vision, il commence à faire des erreurs et il ne se laisse pas corriger. Et quand il ne se laisse pas corriger, ça montre que son caractère n'est pas travaillé.
Ce
n'est pas parce que vous avez une vision qu'elle va s'accomplir. Elle ne s'accomplira pas automatiquement. Vous allez devoir travailler en vous, changer en vous ce qui ne va pas, vous surpasser. Moi, je le vois avec les leaders des groupes de maison. Certains sont étonnés parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup de monde. Mais
ce n'est
pas un problème. Tu sors de toi-même et tu prends la décision de réaliser la vision, de réussir ton groupe de maison. Et ça, c'est important. C'est un défi que tu as devant toi. Et ce défi, tu dois le relever. Si tu saisis une vision, tu relèves. C'est ça qui est important. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la vision de cette église. Vous êtes participants à la vision de cette église. Vous avez une délégation de la vision sur les morceaux qu'on vous donne, une responsabilité limitée dans ce qu'on vous donne de faire. Ayez une vision. Un responsable de protocole, il doit avoir une vision de bien réussir ce qu'il fait, de s'améliorer régulièrement jusqu'à temps d'arriver à un professionnalisme. Quelqu'un qui est dans le business, il doit avoir une vision, pas de s'endormir parce qu'il a fait des bons bénéfices dans l'année 2006. Il doit avoir la vision de dire c'était bien, Dieu m'a béni, mais je veux un autre niveau. Je recherche un autre niveau. Je recherche à produire plus. Je recherche plus de perfection. Je recherche davantage. Alimente ta vision. Et amène-la à se produire. Mais sans vision, le peuple périt. Le peuple va n'importe où. Le peuple n'a aucune direction. Il va à droite, à gauche. Sans vision. Ce matin, nous avons vu quelque chose de simple. Très simple. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu vois devant toi? Dieu a dit à Abraham, contemple le pays. Regarde. Regarde. Tout ça, je te le donne.
Regarde.
Alors, je ne sais pas si Abraham il s'est mis sur un arbre ou il a levé les pieds. Pour voir plus loin. Seigneur, encore quelques kilomètres. Tout le pays qu'il allait contempler, c'était pour lui. sa descendance, sa descendance. C'était ce que Dieu voulait pour lui. Quelle est ta vision ce matin? Est-ce que tu es comme un Israélite? Tu dis, bon, moi c'est vrai, bon, je suis sauvé. Mais bon, le monde c'était pas si mal. Revenir un peu en arrière, ça serait pas mal. Bon, je suis dans des problèmes. Mais avec tous ces problèmes, je suis comme paralysé. Je ne peux plus rien faire. Avancer, reculer, aller à droite, à gauche. Je m'assois et j'attends que le temps passe. Mais le temps passe, mon frère, ma soeur. Tu n'as qu'une vie sur cette terre pour réaliser des choses. Ce qu'il y a en toi. Et il va falloir que tu te secoues et que tu prennes ce défi et que tu le relèves et que tu accomplisses ce que Dieu a mis dans ton cœur. Mais d'abord accomplis ce qu'il y a dans la parole. Vis dans la parole et Dieu va mettre des choses dans ton cœur, une vision de voir. Qu'est-ce que tu vois cette année? Qu'est-ce que tu vois dans 5 ans? Qu'est-ce que tu vois dans 10 ans? Il y a des gens qui voient aujourd'hui. Et demain. Et après, on verra. Mentalité du désert. Mentalité de ces gens-là. Ils n'ont jamais rien vu se produire. Ils sont restés, ils sont morts. Dans le désert parce qu'ils avaient pas de. Josué et Caleb avaient une vision. Ils s'en sont sortis. Et ils ont vu la promesse. Qu'est-ce que tu veux voir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie? T'attends que les choses se passent? Elles ne se passeront pas tout seul. Elles ne se passeront pas tout seul. C'est à toi de prendre et de faire se passer la vision. Si tu veux pas, il y en a d'autres qui le feront pour eux-mêmes. Et tu verras, ils vont accomplir de grandes choses. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a un avenir. Un avenir. Un avenir. Il a des plans. Pour ça, tu dois saisir la vision. Et tu vas travailler à cette vision. On va se lever, on va prier.